Donc, nous prenons maintenant d'Afikret Amoudbet au bas de la page le commentaire sur la dernière partie de la Mishnah du début du deuxième chapitre de Megillah. Donc, la Mishnah nous disait Aïta Ketouva, si la Megillah avait été écrite, et alors elle donnait un certain nombre d'ingrédients qui auraient servi à la place de l'encre à écrire la Megillah. Donc, là-bas, nous sommes en train d'étudier le traité Megillah. Dans le deuxième chapitre, et la Mishnah nous disait comment et avec quoi on doit écrire la Megillah. Alors on avait dit que si la Megillah est écrite avec Sam, qu'est-ce que c'est que Sam ? On regarde dans la Gemara. Alors la Gemara va traduire de l'hébreu en araméen, mais on risque de ne pas être très avancé. Donc Sam, Sama. Ça, en général, le mot araméen, c'est un mot hébreu, on rajoute un aleph à la fin. Donc Sam, Sama. Mais cela dit, nous, ça ne nous avance pas. Alors, on regarde Rashi. Rashi, quatrième ligne au bas de la page. Sama, Zarnich, Belashon Kodesh. Là encore, ça ne nous avance pas beaucoup. Sauf que, dans mon édition, en tout cas, de la Masoret Hashas, il y a écrit que c'est une citation de Chulin, Pechet Amoudbet. C'est-à-dire que dans Chulin, Pechet Amoudbet, la Gemara, elle dit que Sama, c'est Zarnir. Zarnir Belashon Kodesh. Et là, Rashi nous dit en français. Alors, en fait, c'est Orpiment. Orpiment Belaz. En vieux français, c'est de l'orpiment. O-R-P-I-M-E-N-T. Mais qu'est-ce que c'est que l'orpiment ? Je ne sais pas si ça existe, je ne me rappelle plus, j'avais regardé. Il est possible que c'est un mot qui existe encore dans la langue française. En tout cas, c'est du sulfure d'arsenic. C'est du sulfure d'arsenic pour les chimistes présents, dont la couleur c'est jaune-orangé. Donc c'est une encre jaune-orangé. Voilà Sam. Alors.
C'est mortel.
Où est-ce qu'il y a écrit qu'il faut du noir ? C'est Dio, justement. Mais si quelqu'un, des fois on reçoit des faire-part, c'est pratiquement en couleur, doré, on n'arrive même pas à lire, n'est-ce pas ?
Les gens, ils font transparent.
Est-ce que c'est beau, est-ce que c'est jaune, c'est esthétique ? On peut très bien trouver des gens qui vont faire des Megillah en jaune, ça serait jaune-orangé, ça serait très possible. Mais il n'est pas yotzé parce qu'il y a un dîme de Dio. Et c'est ça, et ça exclut tous les autres. Même vous avez le plus beau des liquides, mais c'est pas Dieu, c'est pas bon.
Alors, c'est pourquoi la Mishnah, je voulais vous demander, parce que vous dites là maintenant, qu'elle n'avait qu'à dire que c'est valable que en Dieu, et on comprend.
Elle le dit. Elle dit. Achetek, tout va bidio.
Donc elle exclut tous les autres, mais elle les a exclus avant pour dire après, c'est bizarre pour la formulation.
C'est une bonne remarque.
Si c'est une guérette, je ne voudrais pas non plus.
Oui, non, mais ça ne répond pas à la question d'Eric. Eric, il dit si on dit l'encre exclusivement, bon, ben ça exclut tout. Alors, c'est pas la peine de dire que ça, mais c'est pas, et quelqu'un tout. Alors, non, alors on pourrait dire que des fois, on peut toujours se dire que En le Medim in Atlalot. Un filou va comme chez les Marbaim Khoutz. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, la Mishnah a dit que le Ikar Adin c'est Dio, et ça vient exclure beaucoup, mais pas le ça. Donc, ça, apparemment, comme il y avait une Avamina, que ceux-là, on aurait pu les utiliser, alors on met l'accent dessus, comme ça on est tranquille. Alors je voulais vous faire ici un commentaire du Maharit Chayot. Derrière vous avez, comme les commentateurs, il y en a un qui s'appelle Rabbi Tzvi Hirsch Chayot. Chayot c'est son nom de famille, comme aujourd'hui aussi ça existe, des gens qui s'appellent Chayot. Sauf que ce sont des Sfaradim, lui il était Ashkenaz.
Ashkenaz.
Hayot, c'est Sfarad aujourd'hui.
Sfarad normalement. Chayot.
Alors... Regardez ce qu'il dit sur le Rashi qui dit Zarnich Belashon Kodesh Ayen Moussaf Arour. Vous savez qu'il y a un lexique qui s'appelle le Arour, qui date du Moyen-Âge, le Rabbi Nathan de Rome, qui a pris des mots de la Gemara et qui a donné la traduction. Et il y a eu un Moussaf Arour, qui est un acharon de Pologne, au 18e siècle, 19e siècle, qui a complété, qui a fait des rajouts. Et lui, donc, apparemment, le Arour n'avait pas pris le mot Sam, il n'avait pas jugé nécessaire de le noter. Alors lui, il a rajouté. Et il fait comme commentaire que c'est Zarnir Belashon Ishmael. Rashi, donc il est en train d'attaquer Rashi. Rashi dit que. Donc on parle de l'orpiment, qui est du sulfure d'arsenic jaune orangé, et bien que la Gemara l'a dit, que la Mishnah l'appelle Sam, en arabien c'est Sama, Rashi nous a dit on lachona kodesh zarnich. Il dit c'est pas du lachona kodesh, c'est en arabe. Comment on dit orpiment en arabe? Zarnich.
En yiddish peut-être.
En tout cas, d'après le haro, c'est belachon Ishmael. Ou Bémet, belachon amikra lomatsinu zarnich. On a fait toute la Bible, on n'a pas trouvé le mot zarnich. Ça sonne pas très. Ça pas très lachon à Claude et zarnich. Ou bli safek, taout sofer nafal berashi. Waouh! Il en va à dire qu'il y a une taout sofer, c'est une erreur de scribe. Il faut corriger dans Rashi, non pas lachon à Claude, je veux lachon Ishmael. Et en vérité, j'ai une petite remarque qui a été faite par les éditeurs, entre crochets, qui dit, mais non, c'est pas ça le pshat, il n'y a pas d'erreur dans Rashi. Ce que Rashi veut dire, c'est que dans la Gemara, dans Houlin, on a dit, il y a une braïta, c'est une braïta, et qui emploie le terme de zarnir. Donc c'est pas contradictoire, c'est-à-dire à la base c'est vrai, le mot zarnir il est d'origine arabe, mais il a été repris et incorporé dans le langage de la braïta. Et la braïta, c'est de l'hébreu, c'est du lachon hakodesh. Alors lachon hakodesh, il y a le lachon hamikra, lishna de mikra le houd, lishna de mishna le houd. On sait très bien que la langue, elle évolue. En français, c'est comme ça aussi. Chaque année, le Robert sort avec des nouveaux mots qui n'y étaient pas l'année d'avant. Donc le langage évolue. Mais n'empêche que ça devient, une fois que c'est dans le Robert ou dans le Larousse ou l'Académie française l'a validé, ça devient du français. Donc là aussi, ça devient du lachon hakodesh. Donc quand Rashi dit zarnir, parce que dans Houlin, Rashi pense que tout le monde connaît Houlin, et qu'on fait allusion à une braïta qui dit zarnir. Maintenant, si on demande, mais pourquoi ça s'appelle zarnir, ben, lachon hakodesh, c'est un mot, c'est l'origine, l'étymologie, elle est arabe. Mmh. Comme en français, vous trouverez béni oui oui, en français, ça vient de l'arabe. Ou encore, enfin, il y a plein, ça manque pas les mots de français qui ont origine arabe, par exemple.
Tarif,
ça vient de l'arabe. Il y a aussi un mot qui me vient qui m'échappe là dans le langage militaire. Bon. En tout cas, voilà, c'est une petite remarque, mais simplement, il n'y a pas de taout sofer dans Rashi. Zarnir, c'est de l'hébreu mishnaïque, tanaïtique plus exactement, qui provient de l'arabe.
De l'arabe. Ce que vous voulez dire, c'est que l'Académie française, c'est la Braïta qui lui a donné son...
Exactement. Stempel, c'est la Braïta, exactement. Donc, Sam, c'est du... Aujourd'hui, on dirait pas piment, on dirait du sulfure d'arsenic jaune. On arrive maintenant, on passe au suivant. Sakra. Alors, pareil. Alors, Sakra, déjà dans la Mishnah, il a un aleph. Alors, comment on va le rendre araméen, hein?
Ah oui.
Amar Rabba Barbachana, Sakarta Shma. Nous, c'est ce qu'on nous en Babylonie, c'est ce qu'on appelle Sakarta. On a rajouté un tav. Mais ça ne nous dit pas plus. Qu'est-ce que c'est? Alors on regarde Rashi. Rashi nous dit Sakarta zet tseva adom shetzovin bo trisin. C'est de la peinture rouge qui nous sert à peindre les volets. Donc moi je dirais que c'est du minium. Vous savez ce que c'est le minium? Le minium.
Protégé.
C'est quand tout ce qui est métallique. Avant de le peindre, on le peint en rouge parce que c'est de l'anti-rouille.
Ouais.
Donc c'est une peinture, c'est une couleur très rouge. Et donc je pense que c'est ça ce à quoi Rashi pense. Donc c'est le minium. En tout cas, c'est rouge. Donc en fait, ce qui compte, c'est les couleurs. Sama, c'est jaune orangé. Et Sakarta, c'est rouge.
C'est comme Kuta Sikra, il était rouge, le Kuta Sikra.
Oui, il était rouge, tout à fait. Kuta Sikra, c'était sur le Misbéa. Oui, tout à fait. C'était un très rouge. Ouais, c'est la même racine. On arrive au suivant. Koumous. Kouma. Alors c'est quoi? Pareil, Rashi dit, la Gemara ne dit pas, mais Rashi sait. Et Rashi nous dit, Sraf Ilan. C'est la résine. On appelle aussi ça gomme. Des fois Rashi donne le nas gomme. Et c'est facile à retenir parce que comme, coma et gomme, c'est très proche. Donc c'est la résine des arbres. Et on arrive maintenant à Kankantou. C'était le dernier. C'était le dernier liquide qu'on aurait pu employer pour écrire la Megillah. Ouais. Qu'est-ce que c'est que Kankantum? C'est Charta de Ushkefi. Alors là, c'est difficile à traduire, c'est de l'araméen pur et dur. Alors Rashi chez nous nous dit Charta de Ushkefi Sam, c'est encore une fois c'est un élixir, un liquide, un produit chez Tsovinbo Manalim Shchorim qui sert à teindre
en couleur noire
les chaussures. On est étonné, pourquoi Rashi nous parle des chaussures spécialement? Alors en fait, on a les Likutei Rashi. C'est-à-dire que dans notre édition, on a les Rashi, quand ce mot revient, dans d'autres Masertot, qui ramènent le commentaire que Rashi fait là-bas. Alors si je regarde dans les Likutei Rashi sur ce mot de Charta de Ushkefi, voilà ce qu'il dit. Et on va beaucoup mieux comprendre. Où est-ce qu'on est ici? Voilà. Alors, d'abord, il y a dans Sota, Yudzayin Amudbet, Rashi traduit en français Kan Kantum. Là, il n'a pas traduit. Il a laissé la Gemara qui disait Charta de Ushkefi. On comprend que c'est noir. Ça a l'air noir, en tout cas. Mais dans Sota, Rashi dit Vitriolo, donc vitriol. Ardemment. On va parler de ces deux produits dans quelques instants. Donc là-bas, il y a une traduction. Soit c'est du vitriol, soit c'est de l'ardement. Et après, il dit, dans Choulin, la Medalef, on retrouve cette formule de Ushkefi. Rashi nous dit Ratsa'anin. Ratsa'anin. C'est quoi Ratsa'anin? Soit c'est une lanière, mais Ratsa'an.
C'est le type qui fait de lanière.
Ça s'appelle comment?
Je sais pas.
Un cordonnier. Cordon a donné cordonnier, comme Ratsan a donné Ratsan. D'accord? Donc, Charta de Ushkefi. Charta, c'est le nom du produit. Mais Ushkefi, ça veut dire qu'il est utilisé par les cordonniers. C'est pour ça que Rashi a dit chez nous, c'est le sam, c'est la couleur noire, qui est utilisée par les cordonniers pour teindre les chaussures. Voilà l'explication. Et donc tout ça, c'est pas bon. On arrête là le commentaire de la Gemara avec Rashi et on va étudier le Tosfot. Vous avez Daf Yutret Amud Bet, donc sur la page précédente, vous avez un Tosfot. Kan Kantum, Charta de Ushkefi. Donc en fait, ce Tosfot n'est pas à sa place. Vous avez, je pense, une remarque qui dit que le Tosfot devrait se trouver sur la page suivante, puisque le mot Kan Kantum était sur la page suivante. C'est un problème de mise en page. L'éditeur avait du mal, donc il avait un trou.
Il y avait encore de la place
ici. Il a mis son Tosfot là.
C'est rare, hein, ça, comme ça.
Non, c'est assez courant.
Assez courant.
C'est relativement courant. Kan Kantum Charta de Ushkefi. Perash Akuntras, Adrément. Alors, on est étonné parce que Rashi.
C'est contre Rashi.
Rashi n'a pas dit ici Adrément.
Dans l'autre Rashi.
Alors, c'est en fait. Si c'est dans Suite Sota, il aurait dû dire vitriol.
Les deux.
Alors, donc, c'est à quoi il se réfère? Donc, dans mon édition. Vous l'avez pas, vous?
Il y a un coup pour
Béroubine. Il y a le coup, c'est la même édition. Vous avez la même édition que moi. C'est dans Eruvin Yud Gimel, c'est le Rechash. C'est le Rechash qui dit. C'est dans Eruvin Daf Yud Gimel Amud Aleph. C'est là-bas que Rashid donne comme seule traduction en français de Kan Kantum, Adrement. Alors qu'est-ce que c'est que Adrement? Adrement, c'est du vitriol, mais il y a deux sortes de vitriol en fait. Donc ce vitriol-là, c'est du sulfate de cuivre. Et donc le sulfate de cuivre, je vous rappelle encore qu'on a appris à l'école, c'est bleu turquoise. Il y a le sulfate de fer, il y a le sulfate de cuivre. Il y a le sulfate ferreux et le sulfate ferrique, n'est-ce pas, vous rappelez? ça date il y a quelques années.
On a encadré énormément de TP là-dessus.
Ah bon, d'accord. Donc, alors vous allez nous aider. Donc là, c'est le vitriol. Il y a deux couleurs de vitriol, en fait, et qu'on appelle tous les deux vitriol. Donc là, quand Rashi dans Sota, il dit vitriol adrement, c'est le vitriol qui est bleu.
Qui est bleu,
et donc qui est sulfate de cuivre, qui est bleu turquoise. Donc Rashi nous dit, en général, c'est ce qu'on dit, le Kan Kantum, c'est le bleu turquoise.
C'est un peu emporté.
T'oblige pas, t'oblige.
Oui.
Alors, Tosfot dit, donc Rashi dans Hérouvi nous a dit que Kankantum c'est adrement que nous avons identifié au sulfate de cuivre bleu turquoise. Le Kashia, mais ça c'est très difficile, nous dit Tosfot. De Imken, si c'était le cas, Yehé Assour le a-t-il adrement, il manque le dalet, hein, mais comme les scribes ne comprenaient plus le français, ils ont souvent mal rendu les lazim. Si d'après ça, il ressortirait qu'on n'a pas le droit de rajouter à l'intérieur de l'encre un peu d'adrement. Or, sous-entendu, nous avons l'habitude tous les jours de le faire. Et donc, si on faisait comme Rashi, ça voudrait dire que nos sifrei Torah sont pas saouls. Chas v'shalom.
Je ne comprends pas la question exacte de Tosfot. Sa déduction, elle est basée sur quoi? On a dit que c'est interdit d'utiliser ce produit-là. On ne peut peut-être pas le mélanger.
Très bien. Alors, on va continuer. De Imken, Yéassour, l'a-t-il adrement le Tochadio? Donc, à ce stade, on pourrait dire qu'il y a une différence entre l'utiliser à l'état pur ou à l'état mélangé. Et donc là, on pourrait répondre à Rashi comme ça. Tosfot dit, et la Shmamina, mais pour Tosfot, lui, il dit, pour lui, c'est déjà une preuve que ça ne peut pas être que Rashi a tort. Et donc, de Kankantum, lo ave ardrement. Donc, on a déjà éliminé l'explication de Rashi. Mais il va le conforter. D'achina mimashma atam. Parce que c'est d'ailleurs ce qui ressort de là-bas. Atam, c'est toujours dans Hérouvi. Exactement. C'est juste. De me faresh, parce que là-bas, quand on exclut le Kalkantum, on explique que la raison pour laquelle Kalkantum assour, Mishum Dirtiv, parce qu'il est écrit dans la Torah, dans Parashat Nasso, à propos de la Sota, V'chatav Umacha, Gabe Sota. Vous vous rappelez que la procédure de la Sota, donc la Sota c'est la femme qui est soupçonnée d'infidélité, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait boire une potion. Et de quoi est constituée cette potion? On prend un parchemin sur lequel on reproduit toute la paracha de Nassau qui parle de la Sota, on le fait dissoudre dans de l'eau, qu'on appelle Amaïm Amarim, l'eau qui devient amère, et c'est ça qu'on fait boire. Et après, suivant qu'elle est innocente ou pas, il y a le jugement de Dieu, donc soit elle explose, soit elle devient féconde. Et donc là-bas, il y a écrit le Kohen écrira le texte Umacha, et ensuite il doit l'effacer en le mettant dans l'eau.
C'est l'eau qui va l'effacer.
Il ne grattait pas?
Non.
Tout seul.
Donc, Katav Umacha El Amaim. Katav Umacha El Amaim. Il y a écrit qu'il le dissoudra, il l'effacera en le mettant dans l'eau. Et de là, on déduit Ktav Sheyachol Limchot. Donc, puisqu'il y a Katav Umacha, de là, on déduit que le liquide qui sert à écrire, ça doit être un liquide tel qu'il est effaçable.
Ouais.
Voilà.
Soluble à l'eau.
Et
si je mets du
triol,
ça marche plus.
Ou duo, shejbo kankantu. Et quand vous prenez de l'encre, vous mettez le kalkaltu, dit la gmara là-bas, et no yacholim chot. Donc là-bas, on ne dit pas seulement qu'on ne peut pas écrire en kankantum. Là-bas, on dit que si vous avez du dio, et que si vous avez mis du kankantum, ça ne peut pas être yacholim chot. Donc, ça ne peut pas être le sulfate de cuivre, puisque le sulfate de cuivre, il n'est pas soluble à l'eau, il est ineffaçable. Pardon ?
Il est soluble à l'eau, le sulfate de cuivre.
Ah ! Alors.
C'est bon, ça ne peut pas en être. Que si ça en était, il serait soluble.
Ah oui, donc c'est, voilà, donc c'est ça. Et c'est ça. C'est pas le sulfate de cuivre, parce que le sulfate de cuivre, l'adrement, il est soluble à l'eau. Et ça ne peut pas être kankantum, puisque le kankantum, d'après la Gemara, il n'est pas soluble à l'eau. On va voir la suite de Tosfot. Ve'imken, en conséquence, shmamina de kankantum, lavainu adrement. Tosfot dit ce que vous dites. Donc de là, on déduit que le kankantum, ça ne peut pas être le sulfate de cuivre. Share bocholium anu metilim adremin le tochadio shelanu. Parce que tous les jours, on a l'habitude de mettre du sulfate de cuivre à l'intérieur de l'encre. Va filoachi, va chilan l'échappir. Et ça ne nous empêche pas de l'effacer. Donc on a deux preuves. On a deux preuves que le kankantum, ça ne peut pas être ce que Rashi a dit, le sulfate de cuivre. Il y a la preuve à la chic. C'est que nous, tous les massim bocholium, que nous on en met, Et d'après Rashi, ça devrait être Passoul. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle c'est Passoul, c'est parce que ça ne serait pas effaçable. Or, c'est effaçable. Donc il y a les deux preuves. Alors, qu'est-ce que c'est au final ? Venirez que de Perash Rashba Beruvin, donc le petit-fils de Rashi, Rabbi Shmuel Ben Meir, lui dans Eruvin, il donne un autre pshat que son grand-père. Il dit de Kod Kankantum Ainu Vitriolo. Mais c'est l'autre vitriol. Parce que on l'appelle aussi vitriol. Et c'est quoi ça ? C'est le vitriol vert.
C'est
tout ce
qu'il
nous dit. Non, c'est tout ce qu'il y a. Alors, le vitriol vert, c'est le sulfate ferreux qui est de couleur verte. Donc, le sulfate de cuivre, il est bleu. Et le sulfate de fer, ferreux en tout cas, il est vert. Le ferrique, je ne sais pas ce qu'il est.
Orange, jaune-orangé.
Jaune-orangé aussi ? Comme le sulfure d'arsenic. D'accord. Alors Tosfot demande une i de Amrina Natam chez Iyoroka. Je lis d'abord comme c'est écrit. Et bien qu'on dise là-bas que ce soit vert, alors ça laisserait entendre que le vitriol n'est pas vert, contrairement à ce que je viens de dire, déjà c'est un problème. Mais quand même, Yeshlomar, on peut dire chez Mashkeret que ça noircit, que c'est Shorkimota et Dekadek lorsque on le pile très fin. Après, c'est quoi la question, puisque en quoi le fait de dire que ça devient noir quand on le pile, en quoi ça résout la question que c'est vert. Alors en fait, le recherche nous dit qu'il y a une erreur dans Tosfot, encore une Taout Sofer, il faut corriger par Shchora. Une i d'Amrina Natam chez Ishchora. La question de Tosfot c'est là-bas dans Eruvin, on dit que le Kalkatoum est noir. Or le vitriol, il est vert. Donc ça va pas. Réponse de Tosfot, c'est vert. Mais lorsque vous le pilez en tout petits morceaux, alors ça noircit. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit aussi chez nous, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Tosfot a besoin d'Amrina Natam chez nous aussi. Ah non, chez nous, on a dit Kharta de Ushkepi. C'est Rashi qui a
dit. Chez nous, on
Oui, oui. Donc, Tosfot, en résumé, nous avons un débat entre Rashi et Tosfot sur ce que c'est l'identification du Kankantum. Rashi nous dit que c'est le sulfate de cuivre bleu. Tosfot nous dit que c'est le sulfate de fer vert, ferreux. Maintenant, le problème, c'est que Tosfot a apporté des preuves contre Rashi. Il y a les preuves de la Mtsiout, que le Kankantum n'est pas effaçable. Or, le sulfate de ferreux, il est effaçable.
Il est hydrosoluble aussi, ouais.
On n'a rien gagné, alors. Ça ne nous arrange pas.
Ouais. Peut-être que quand il est noirci, il ne l'est plus, je sais pas.
Ah, très bien, d'accord.
C'est l'oxydation.
Ça a été oxydé, donc peut-être que c'est ça. C'est ça, très bien. D'accord. Et en tout cas, Tosfot a dit que le sulfate de cuivre, on l'a expérimenté, il est effaçable. L'autre, apparemment, ne l'est pas. Et donc, comment Rashi va répondre à la Metsiout ? Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a la Gemara qui a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser. C'est-à-dire, il y a la Metsiout qui est effaçable, et puis il y a d'abord la Gemara qui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Or, nous l'utilisons, ça voudrait dire que tous nos Sfarim ne seraient pas sous. Comment Rashi rend compte du fait que les Sfarim sont écrits avec ça ? Alors que d'après lui, ça devrait être Passoul. Alors, il y a deux questions. Une question de Metsiout et une question de Halakha. Alors, au niveau de la Halakha, il y a peut-être une solution pour sortir Rashi de ce guépier. Je vous propose d'aller voir le RAN. Ouais. Ceux qui n'ont pas, on peut l'écouter, ce ne sera pas long. Voyons le commentaire du RAN sur la Mishnah de Ayak, Tuva, Bessam, Sikra, Bekumus, Bekankantou. D'abord, le RAN nous dit Sam, Sikra, Minetzva, Imem. Sans rentrer dans le détail, c'est des couleurs. On les a vues déjà, les couleurs. Un c'est jaune et l'autre c'est rouge. Ou Bekankantou, Mefaresh, Begmara, Kharta, Douj, que fait. Donc le RAN maintenant nous rapporte ce qu'on a vu. Il va faire une sorte de résumé de ce que nous avons vu. Dans la Gemara, on explique que le Kankantou, c'est Kharta, Douj, que fait. Mais ça ne nous avance pas. Qu'est-ce que c'est Kharta de Ushkefe ? Perash Rashizal, hors piment. Rashi a dit que c'est hors piment. Alors, ce n'est pas vrai. Là, il y a un problème dans le Ran, parce que Rashi Orpimon, il l'a dit sur sa carta. Il n'a pas dit ça sur... Là, il a dit adrément. Donc là, il y a un petit problème dans ce Ran, je ne sais pas l'expliquer, à mon avis, c'est un taout sofer. Ou betos fot amrou, chez Enoken, chez Im Ita, ayasur la tilo bejo chez Sefer Torah. Parce que si c'était comme Rashi, on n'aurait pas le droit de mettre de l'orpiment, non pas de l'orpiment, de l'adrement, dans du sulfate de cuivre, dans l'encre du Sefer Torah. Mido Amrin al Perikama de Hérouvin, ou Perek Gimel de Sota, Amar Rabbi Meir. Alors là, vous avez, là, il va nous citer la Gemara en question. La question de la Gemara, comment on voit dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de mettre de ce produit dit Kankantum, et que Rashi identifie au sulfate de cuivre, dans de l'encre pour un Sefer Torah. Dans la Gemara de Hérouvin et dans Sota, il est dit la chose suivante. Amar Rabbi Meir, on sait que Rabbi Meir était scribe de son état. Que Shiaïti l'amet Torah et Tsel Rabbi Ishmael. À l'époque où je me formais, j'étais jeune étudiant et que j'étudiais la Torah auprès de mon maître Rabbi Ishmael. Aïti m'a-t-il Kankantum le Torahdio ? Ben moi j'avais l'habitude de mettre du Kankantum dans l'encre. Apparemment ça donnait un plus bel encre, une encre de meilleure qualité ou peut-être qui ne s'effaçait pas facilement.
Voilà, plus stable.
Plus indélébile, donc plus c'est important parce que quand la Torah s'efface, c'est pas on n'a pas intérêt nous à ce qu'il s'efface. Après il n'est pas saoul quand il est effacé, il faut le réécrire. Donc sans doute que.
Effaçable mais difficilement.
Voilà, effaçable difficilement, c'est l'idéal. Donc c'est ce que je faisais, sous-entendu, Rabbi Ishmael, mon maître, il était d'accord, parce qu'il ne disait rien, il validait. J'ai battu les Rabbi Akiva, et après je suis parti chez un autre maître. J'ai quitté Rabbi Ishmael pour changer un peu, pour voir une autre méthodologie. Je suis allé voir Rabbi Akiva.
Il m'a dit stop.
Et lui, il m'a dit stop. Asara alai, il me l'a interdit. Sous-entendu, et là, Alakha est comme Rabbi Akiva. Alakha que Rabbi Akiva me chavero. Donc là, l'alakha est comme Rabbi Akiva. Donc d'après Rashi, on n'aurait pas le droit de faire ce que nous faisons.
Oh là là.
Et donc c'est ça la question. Donc comment on va résoudre ça, Rashi? Vanu regilin. Alors lui, il continue avec son orpiment. Vanu regilin la tête orpiment. Mais en fait, il faut lire adremant, le tochadio. C'est ce que disait Tosfot. Alken pirshuem. C'est pour ça que Tosfot a expliqué que Kankantum, c'est vitriol. Vechen perash rashi beruvin. Et d'ailleurs, Rashi a aussi dit vitriol. Et moi, j'ai dit non, mais c'est pas le même. Il y a le vitriol vert et il y a le vitriol bleu. Miou. Efchar. Alors là, le Ran va nous donner une piste. Il est possible de Kaimalan que la halakha soit établie que Manda Maratam, comme un auteur qui dit là-bas, Chutz mi parshat sota chez Bemigdash, que ça a été dit uniquement,
l'ineffaçabilité
n'a été requise que pour la parasha de sota qu'il y avait au Betamigdash, qui devait servir à la sota. Celle-là, il fallait qu'elle soit effaçable, parce que si elle n'est pas effaçable, on ne peut pas appliquer. Mais un autre, un Sefer Torah, il est effaçable. Au contraire, c'est le nec plus ultra, parce que le Sefer Torah, il est plus solide. Et donc, où le fikach, moutar la'atil, ben urpimant, ben vitriol, dios et Sefer Torah. Donc ça pourrait être la chita de Rashi. Que Rashi pense que, en fait, c'est pas grave, que nous, notre halakha, c'est que ça peut être. C'est que l'effacibilité n'est requise que pour la sota, mais dans un Sefer Torah, on peut prendre une encre qui est ineffaçable. Donc ça, ça va. Mais reste la question de la metziout. La deuxième question qui est que la Gemara dit que ce Kankantum rend ineffaçable, or nous, on a vu que c'est effaçable. Donc nous, on voit bien que c'est effaçable.
C'est peut-être une quantité. Tout petit peu,
mélange. On parle de mélange. Donc la Gemara dit que quand on met le Kankantum, le Tochadio, c'est ineffaçable. Or, nous, on voit que lorsqu'on met ce que Rashi identifie au Kankantum dans le dio, c'est effaçable. Donc, ça ne peut pas être la même chose. Donc, cette question reste. Alors, j'ai peut-être une piste là aussi. Je suis allé voir dans Hérouvin. Qu'est-ce que Rashi disait ? Parce qu'en fait, c'est plutôt un problème de Hérouvin que de Megillah. Mais bon, puisqu'on en parlait, c'était l'occasion. Et j'ai noté quelque part, juste que je retrouve, voilà. Rachid dans Hérouvine, il dit Chéri Shumo Nikar Meod. Rishumo Nikar Meod. Sa trace, son empreinte reste très visible. Pourquoi il dit ça? Il a dit que c'est pas Nimrat, c'est indélébile, ça ne s'efface pas. Il a l'air de dire, quand il dit l'empreinte est très reconnaissable, ça, reste, ça veut dire que c'est effaçable. C'est effaçable, mais il reste une petite trace. Alors peut-être que c'est ça l'histoire. Que, normalement, nous, on a pas fait l'expérience. Mais ça voudrait dire, quand on se dit on peut l'effacer, c'est vrai que tu peux l'effacer, bien sûr tu peux l'effacer, mais tu vois quand même une petite trace, il reste quelque chose. Et c'est ça que la Gemara elle appelle ineffaçable. Et donc, et sur ce point-là, on pourrait trouver, mais c'est à vérifier dans
le. Par exemple, l'eau devient bleue, mais c'est que c'est effacé, puisque l'eau est passée dans l'eau.
Oui, mais maintenant, il faut regarder quand même la trace sur le. Logiquement, quand on dit effacé, c'est qu'il faut regarder le support, il faut qu'on ne voit plus rien sur le support. Mais peut-être que pour Tosfot, à partir du moment où c'est très très pâle, ça s'appelle effacé, on distingue vaguement quelque chose. Mais Rachid dit, mais c'est ça, Rishumo Nikar Meod. Quand on dit Nimrak, il faut que ce soit complètement effacé. Au moins pour la Sota, il fallait qu'il reste rien du tout. Voilà peut-être comment on peut s'en sortir. On repasse maintenant à la Gemara. Donc nous sommes d'Afiutet Amud Alef. Et la Mishnah disait que si on a écrit la Megillah sur Diftera, donc là on passe de l'encre au support.
Et les encres, c'est des Adagatou, c'est quelle raison pour les autres?
On n'a pas vu encore. On ne sait pas encore.
La raison,
on ne sait pas encore parce que ça va être dans la Gemara, quand la Gemara va dire, va commenter Hachetehe.
Bessefer
ou Bédio. Là, on va demander d'où ça sort ce deal de Dio. Mais c'est du deal de Dio qu'on va comprendre que les autres ont été exclus. Mais avant cela, il fallait commenter, la Mishnah disait, si on a écrit la Megillah sur du Diftera, c'est pas bon. Lo yatzai de chovato. Donc nécessité de définir qu'est-ce que c'est que Diftera. Alors Rashi nous dit, non, la Gemara nous dit, pardon, Diftera de Maliach ve Kamiach ve lo Afitz. Alors, c'est déjà plus facile là. Maliach, salé, c'est salé. Kamiach,
la
farine, c'est enfariné, a priori. Afitz, on connaît souvent, c'est la noix de gale. On va voir dans Rashi. Alors, Kamiach, ça veut dire Bemaïm. Alors là encore, c'est pas très clair, quoi Bemaïm. Ça veut dire que ça a été trempé dans l'eau. Alors, on va regarder dans le. Là encore, on va céder les Rashi parallèles. Je pense qu'on va trouver un Rashi qui est plus explicite, et ça sera d'autant mieux. Est-ce qu'il y a un Rashi sur Diftera? Il y en a plein. Dans Sota, Rashi dit Or, She'ena me'ubad kol tzorka. C'est beaucoup plus explicite. C'est une peau, c'est bien de la peau, mais elle n'a pas été tannée suffisamment. En ce sens, de Maliar ve Kamiar velo afitz. Ça veut dire quoi? Shayu me abdim. Alors là il n'explique pas Maliach et Kamiach, il juste lo afitz. Shayu me abedin aklafim be afatzim shikorin gal. On avait l'habitude de tanner les peaux, les parchemins, avec ce qu'on appelle en français de la noix de gal. La noix de gal, c'est le petit fruit du chêne. Vous avez déjà vu quand vous avez des chênes, il y a des petites
glands.
Des glands.
Petits glands,
ouais. Il me semble que à l'intérieur du gland, il y a du noir, il y a une petite poudre qu'on appelle. Donc le gland s'appelle aussi la noix de gal, si je ne me trompe pas, je n'ai pas vérifié. Kamiach, alors Rashi nous dit, machine dans Shabbat, machine auto de Kemahumaim. Donc ça veut dire que c'est de la farine. On mettait donc du sel. On a mis du sel. On mettait la peau. On doit la mettre dans l'eau. Pour la tanner, on la met dans l'eau. Mais l'eau n'est pas juste de l'eau pure. C'est de l'eau salée et farinée. Et théoriquement, dans laquelle on en a rajouté de la noix de gal. Et là, on n'a pas mis la noix de Gaal, et c'est pour ça que ça s'appelle diftera et non pas klaf. Il manque un ingrédient du tannage. Voilà, de la préparation. Dans Shabbat, il dit Afitz, il dit pas que c'est la noix de Gaal, il dit Shrika Tafatsim. Ah oui, non, il dit Shrika Tafatsim, c'est de la Gaal pilée. Comme moi, je suis aussi une canne, comme nous on fait à trois, pas chez nous, mais on n'utilise pas de la noix de Gaal, on utilise Shrika Klipat Erez. On pile de l'écorce de cèdre chez Corinne Tanin. On utilise du tanin. Nous en France, on utilise du tanin, et en Israël, ils utilisaient de la noix de Gaal. Voilà. Donc, on regarde au rachis. Il y a un rachis sur l'eau afitz. On l'a fait le rachis déjà. Meoubad Bapafatsim, qui est donc tanné avec de la noix de Gaal, qu'on appelle Gaal. Le S en français, le S du pluriel, dans le temps, se prononçait. On disait Gals. C'est pour ça que Rachid, vous trouvez toujours un Shin à la fin des mots au pluriel. Mais après, on a supprimé, on l'a écrit, mais on ne le prononce pas. Donc voilà le problème de diphtera. Il y a un Tosfot là-dessus, donc on va étudier le Tosfot. Diphtera de Malir Vekamir Velo Afitz. Kachia, on a un problème. Imken, Erkotfim al Klafim Shelanu. Comment se fait-il que nous, on utilise nos parchemins ? C'est-à-dire, de toute façon, il est très, très concret, très pratique. Il faut que nous, on soit conforme à la halakha. Et quand on voit qu'un de nos utilisations n'est pas conforme à ce qu'on voit dans la Gemara, ça fait problème. Donc là, on voit que si on n'a pas mis de la noix de Gaal dans le parchemin, c'est pas bon. Mais nous, on ne met pas de la noix de Gaal. De l'eau afitze. Donc, comment se fait-il qu'on écrive sur des parchemins, nos parchemins à nous, qui n'ont pas été traités à la Gaal, Sefer Torah, Tfilin ou Megillah ? Tout.
Pourquoi il faisait ça ?
À quoi ça servait ? Ah, ça va être la réponse de Tosfot. Tosfot va dire, il faut savoir pourquoi ça servait, et on a quelque chose d'autre différent, mais qui a le même résultat. C'est ce que vous vouliez suggérer.
Non, je le comprends.
Regardez la suite. Veteratz Rabbeinu Tam, donc Rabbeinu Tam, c'est un autre petit-fils de Rashi. Comment il s'appelait ? Son nom ?
Yaakov.
C'est pour ça qu'on l'appelle Tam, parce que Yaakov Ishtam. En fait, il s'appelait Yaakov au départ. On ne l'a pas appelé Tam quand il est né. Alors, Rabbeinu Tam a répondu « She'asid she'anu notnim beklafim she'lanu » que la chaux que nous avons l'habitude de mettre dans nos parchemins à nous, « me'anik et afatim » a le même effet que la Gaal. C'est pour ça qu'on se permet de ne pas mettre de Gaal, parce que nous on met de la chaux, et la chaux remplace la Gaal. Pourtant la chaux est blanche, alors que la Gaal est noire. Le Teïda, et la preuve en est, de Beperek Sheni de Gittin, dans le deuxième chapitre de Gittin, parce que là-bas on parle avec quoi on écrit les Gittin, il y a aussi la même question, est-ce qu'on peut utiliser ceci et cela. Amar de Belo Afitz Yachol Isdayev. On dit que là, si on ne met pas de Gaal, alors on peut falsifier les claves. Comment falsifier ? C'est-à-dire qu'on a écrit quelque chose, on a écrit un nom par exemple, on efface et on réécrit par-dessus, on ne voit rien. Ça n'apparaît pas. Alors que si vous le traitez avec le afatsim, alors tout de suite vous allez voir que ça n'a pas la même couleur. Ça a été trafiqué. Et nous, on a besoin d'un ktav chez Lo Yuchal Esdayef. Nous, on a besoin d'utiliser un parchemin qui ne peut pas donner cours à la falsification. Et donc, Veshelanu, Enyachol Esdayef. Alors là, j'ai une correction. Au lieu de Al Alavan, Al Tzad Alavan. Parce qu'il y a un côté blanc et un côté qui est gris. Donc, si on écrit du côté blanc, alors où il y a eu la chaux, si vous grattez, ça se voit tout de suite. Et c'est donc c'est la raison pour laquelle on peut utiliser du blanc à la place du noir. Alors j'ai pas étudié dans la halakha si aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui concrètement. J'attendais notre sofer pour nous le dire, mais il est parti à Nice en mission.
C'est de la chimie l'histoire, parce que la chaux c'est une base.
Oui.
Et donc peut-être que ça range un petit peu la peau.
Oui.
Et c'est pas de la couleur qui serait marquée, mais ce serait une incrustation un petit peu.
Et donc, quand je gratte... Et
on verrait qu'il y avait un relief qui était déjà présent.
Alors, ce n'est pas une question de couleur, mais c'est une question de texture. C'est très possible. Enfin, vous avez compris que c'est en votre honneur qu'on a étudié ce passage.
Ah oui, c'est le bon moment. Hein.
Parce que d'habitude, ce n'est pas si technique que ça. Mais comme on a...
Incroyable. Il a eu la personne. Et puis il a eu. Il a eu la personne.
Il n'y a pas de résultat. Quand tout veut braquer, il faut ça et pas autre chose. Donc si on obtient le résultat, c'est pas l'ambitude.
C'est-à-dire que c'est ce qui ressort. C'est vrai que nous, la seule chose qu'on va voir, c'est Dio. On ne va pas voir le doux et doux se sorcier de la fatigue. Là, ça répond aussi implicitement à cette question-là. On a besoin de la fatigue. Oui, bien sûr.
La géographie, comme on a vu pour l'arbre,
ouais.
Ils n'ont pas toutes les espèces d'arbres, ils n'ont pas toutes les espèces de sèmes ou d'écorces. Et chacune a des propriétés assez différentes. Il faut adapter.
On est obligé d'adapter. Ouais, bon, mais ce que dit Eric, c'est que s'il y a un verset qui nous disait il faut de la loi de guerre.
Il y a d'autres.
Mais là, en l'occurrence, comme c'est lié à un raisonnement et à une fonction, donc on peut trouver une fonction équivalente dans un autre produit, donc c'est bon. Alors, on arrive maintenant à Neuillard. Alors là, Neuillard, c'est marrant parce que Neuillard, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. C'est du papier. Mais à l'époque, c'était compliqué, Neuillard. Même la Gemara ne savait pas ce que c'est Neuillard. Et donc, la Gemara, elle dit, c'est Marka. Merci beaucoup. Je vais faire une bracha.
Amen.
Donc, qu'est-ce que c'est que Marka? Rashi nous dit Min Asavim, c'est une espèce d'herbe, littéralement, Asui a lieu d'évec, que l'on fait avec de la colle. C'est-à-dire, ce sont des fibres végétaux que l'on agglutine ensemble et que l'on réunit pour faire de la colle. C'est du papier. La définition du papier. Aujourd'hui aussi, le papier, ça serait comme ça.
Le papier, c'est quelque chose qui est très gros.
Cellulose. Ah, on prend c'est de la cellulose aujourd'hui, oui.
Il y a aussi des colles dedans.
Mais il y a de la colle, absolument. Ouais. Et si je regarde le Rashi, un autre Rashi parallèle, pour voir où il est un peu plus prolixe. Neyar Marka, Asavim. Donc on prend des l'herbe chez Kochin qu'on écrase ou Medabkinotan et ensuite on les colle Bedevek avec de la colle chez Corinne glu.
Doux.
Veut aussi comme or et ça donne comme de la peau. Le papyrus c'est quoi d'ailleurs? C'est d'une plante. Et qui donne qui
a
une plante marécageuse, mais qu'on écrase et on la colle et ça donne.
Je sais pas s'il est tressé peut-être, non?
Et finalement, ça ressemble un peu à du. Le papyrus, ça ressemble à du parchemin un peu, non?
Ouais.
Donc je pense que c'est à ça qu'il pense. C'est peut-être à ça quand il dit à Savim, chez Kochim, il pense peut-être au papyrus. C'est possible. Alors, on a terminé avec ces problèmes de technique. Et on va faire un peu de raisonnement maintenant. La Mishnah continuait et disait Hachete Ktuva Ashurit à la Sefer Ubidio. La Gemara va couper cette phrase en deux parties. Hachete Ktuva Ashurit et ensuite à la Sefer Ubidio. Aujourd'hui, on va juste travailler sur Hachete Ktuva Ashurit. Alors, il faut que ça soit écrit Ashurit. Qu'est-ce que ça veut dire Ashurit? Ashurit, ça désigne deux choses. Ça désigne le Lashon HaKodesh. Vous savez que l'écriture du Sefer Torah, on appelle ça l'écriture Ashurit. Pourquoi d'ailleurs? Je ne me rappelle plus pourquoi, parce que ça vient d'Ashur. Ça vient d'Ashur, mais enfin c'était... Pardon?
C'est ça que tu l'as ramené d'Ashur.
Oui, mais enfin, c'était déjà les Luchot Abrit et le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu il a écrit, il était aussi écrit à Shurit. Mais bon, il y a plusieurs. Il y a dans Gittin, je me rappelle le Ritva qui donne plusieurs explications sur l'étymologie de Ashurit. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Mais en tout cas, Ashurit, ça peut désigner la langue, qui est le Lashon HaKodesh, ou les caractères, parce qu'on sait qu'on peut écrire l'hébreu en différents caractères. Il y avait le Lashon Ivrit. qui existait, qu'on voit encore dans les dans des documents archéologiques ou dans des poteries. On n'arrive même pas à lire, nous. C'est une orthographe qui est complètement différente. Mais c'est de l'hébreu, la Aleph Bet Gimel, mais c'est complètement différent. Et puis il y a notre écriture à nous, à laquelle qu'on appelle écriture cursive. On a l'habitude d'écrire nous-mêmes, mais c'est, si on écrit un Sefer Torah comme ça, c'est pas sûr. Il faut que ce soit Ashurit. Donc la question ici, c'est quand on dit Ashurit, la question qui va se poser, c'est de quoi parlons-nous ? Est-ce qu'on nous dit qu'il faut que ce soit écrit dans la langue hébreu ? Ou est-ce que ce soit écrit avec des caractères tels qu'on écrit de Sefer Torah ? Alors voyons d'abord la Gemara. La Gemara dit, d'où on sait qu'il faut que ce soit Ashurit ? Dichtiv kirtavam vechizmanam. Où est-ce qu'il y a écrit Kirtavam et Kizmanam ? Dans la Megillat Esther. La Megillat Esther, à la fin, au chapitre 9, Kiimu ve Kiblu Ayudim Aleem Vazaram, les Juifs ont accompli et se sont engagés pour eux et pour leur postérité. Valkol Anilvim Aleem et pour tous ceux qui les accompagneront, veulent y avoir une règle intangible, Liot Osim et Shnei Ayamim Aele, de célébrer et de mettre en pratique, d'observer ces deux jours que sont le Purim Gadol et Purim Katan, le 14 et le 15 Adar, Kirtavam v'chizmanam, conformément à ce qu'ils ont été écrits, c'est-à-dire là on pense à la Megillat Esther, v'chizmanam, et en leur temps, v'chol shana v'shana. Donc comme il y a écrit Kirtavam, donc dans leur écriture, donc ça, la Megillah est écrite. Alors là, on peut comprendre de deux façons. La Megillah est écrite en Lashon HaKodesh. Donc il faut que là aussi, elle soit écrite en Lashon HaKodesh. Ou bien on peut dire la Megillah, elle a été écrite en caractère Ashurit. Donc il faut aussi qu'elle soit écrite Ashurit. Donc on n'est pas encore sorti.
Ouais.
On n'est pas encore sorti. Alors je vais vous faire un commentaire du Pnei Yoshua sur la Mishnah. Le Pnei Yoshua, il a dit...
C'est pas lié. Allez-y. Ce digne de la Shurim, il a dit que c'est pour toute la Torah. C'est pas que pour la Megillah.
Là, ça a été écrit que pour la Megillah.
Pour la Megillah. Ah, donc dans la Torah, ça sera déduit d'ailleurs.
D'ailleurs.
Ah, d'accord.
Oui.
Ce que je dis, ça serait bizarre qu'on apprenne pour la Torah.
Ah, non, là, on ne parle que de la Megillah.
D'accord.
Alors, le Pnei Yoshua se pose la question de savoir, il a dit, initialement, il aurait pensé qu'il s'agit de la langue. Qu'on vient de nous dire que ça doit être écrit en hébreu. Mais il dit, mais c'est pas possible, ça a déjà été enseigné dans la première partie de la Mishnah. Dans la première partie de la Mishnah, on a dit que la Megillah, fondamentalement, doit être écrite en hébreu. Que même si on ne comprend pas l'hébreu, on est yotzé quand même. Mais que si ça a été lu, écrit et lu dans une autre langue que l'hébreu, et qu'on comprenne cette langue, c'est valable aussi. Et on avait vu dans le Ran que pourquoi les Chachamim avront dit ça, pourquoi cette extension qui n'existe nulle part ailleurs. Parce que, comme il a dit de Pirsoum et Nissa, alors on préfère quand même que les gens comprennent plutôt qu'ils entendent un texte qui pour eux est de l'hébreu. Et donc, comme ça, il y aura plus de Pirsoum et Nissa. Mais n'empêche que fondamentalement, ça doit être. Donc tout a été dit déjà. Donc ça ne serait pas juste de se répéter. Donc ici, on vient dire autre chose. Donc qu'est-ce qu'on vient dire ? On vient dire qu'il faut l'écrire en caractère hébraïque. Mais l'homme Pnei Yoshua, bizarrement, a compris que ce qu'on veut nous dire en caractère hébraïque, ça veut dire que même lorsqu'on écrit la Megillah en grec, en français ou en arabe, mais il faut l'écrire en caractère hébraïque. Comme vous, je ne sais pas si vous avez vu par exemple le Rambam, il a traduit, quand il a fait la traduction de la Mishnah, le commentaire de la Mishnah. Il a commenté la Mishnah. On a retrouvé le manuscrit du Rambam qu'il avait lui-même écrit. On l'a retrouvé dans la Geniza du Caire. C'est écrit comment ? C'est écrit en arabe, mais avec des lettres hébreux. Comme le Yiddish aujourd'hui, comme le Guide des Égarés était écrit ici. C'est aussi, ce sont des caractères en hébreu, mais c'est de l'arabe. Quand vous lisez, c'est des mots arabes. Et... Donc lui il dit, donc apparemment ce que la Mishnah est venue nous dire, c'est que quand on l'écrit dans un autre caractère, eh ben, il faut aussi l'écrire en Ashurit.
Qui c'est le contraire à dire ça?
On dit, alors apparemment, c'est moi qui ai fait tomber ça. apparemment, c'est Misvara. Il ne donne pas de contrainte. Il comprend que c'est Misvara. Soit parce que. Ou alors la contrainte, c'est que. Ben, en hébreu, de toute façon, c'est obligatoire, c'est pas shoot. Si c'est en hébreu, c'est pas shoot. Donc si ça, ça a été nécessaire, ça a été dit uniquement que pour les autres. Ou alors, si c'est valable pour l'hébreu, il y a un dit de la chourite pour l'hébreu, pourquoi il n'y aurait pas pour les autres ? Donc ça, il ne dit pas clairement. Il l'a compris d'emblée comme ça, il n'a pas compris autre chose. Et alors, il pose une question. Mais il dit, alors dans ce cas-là, il pose une question parce que le Beth Yosef dit que on n'a pas besoin que l'écriture soit en la chourite. Il dit comment le Beth Yosef a pu dire que ça peut que il précise pas il dit que le Beth Yosef a dit elle akpid birklal baktav shei ashurit. Alors il dit donc c'est que le Beth Yosef a compris que la Mishnah elle parle pas de l'écrit des caractères mais qu'elle parle de la langue contrairement à ce que lui il a dit. Alors, ça veut dire que le Beth Yosef aurait compris ça sur la langue, et lui, il a compris ça sur le Ktav. Il dit, mais si ça va sur la langue, il y a la question qu'on a posée, c'est qu'il y a une redite dans la Mishnah. Et donc, et en plus, il dit, même dans notre, il y a un autre problème, c'est que la Gemara, elle a dit ici que ça se déduit de Kiktava v'chizmanam. Plus haut, elle avait dit qu'elle avait apporté un verset de Kiktava v'kilshonam. Pourquoi elle change ? Pourquoi ne pas prendre le Kiktavav Rishonam, on prend l'autre verset de Kiktavav. Ça prouve bien que, parce que dans là, on a étudié le Lachon, que la langue doit être en hébreu, et là on parle des caractères. Donc deux questions sur le Beth Yosef. Un, c'est que ça y a une redite dans la Mishnah. Deux, il fallait rapporter le même pasouk, c'est le même din. Pourquoi tu ramènes un autre pasouk?
Ce qui va nous amener au fait que Kizmanam, ça se rapporte aussi à la langue ou pas ?
Non, c'est pas de Zmanam. Le Zmanam ne joue pas ici, c'est le Kirtavam.
Mais on pourrait dire que l'écriture aussi est temporelle et qu'elle est. Non.
Non, le Kizmanam, c'est pour la date, c'est pour dire 14
et. Non, mais la question, elle n'est pas justement, parce que Kizmanam ne vient pas là pour la déduction, parce que si la Gemara l'amène,
parce que Daftet.
Elle amène à l'autre.
Voilà.
Elle amène l'autre.
Parce que, en fait, c'est Daftet. C'est Daftet, on va bientôt arrêter. C'est Daftet. Où on avait dit que la Megillah doit être écrite en Ashuri, déjà, et là-bas, la Gemara avait apporté le passage de Kirtavam de Kirshona. Pourquoi on amènerait un autre ?
Oui, c'est ça, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est Dieu qui.
Donc ça veut dire que c'est un autre din. Donc là, c'est la langue et l'autre, c'est le caractère. Et alors, le Pléoshua dit la chose suivante : Afshe Nikedai, bien que je ne sois rien à côté du Beth Yosef, Mikol Makom, Nilmod, Anitzarik. Mais il faut quand même que je comprenne et que j'ai le droit d'exister. Et, non, j'ai le droit de comprendre, pas d'exister, de comprendre.
Ouais. D'exister pour comprendre.
Et donc, il dit, et je suis très étonné de tous les poskims qui n'ont pas été possèdes comme moi. Donc voilà, on a donc un problème, comment on va résoudre le Beth Yosef alors, et qu'ils ne font pas comme le Pléoshua. Alors, pour moi, ce n'est pas shoot, mais j'ai vu ensuite que d'autres commentateurs le disent aussi, c'est qu'il n'a pas compris le pshat dans le Beth Yosef. Le Beth Yosef est d'accord que quand on écrit en hébreu, il faut que ce soit un chourit. Et c'est de ça que parle la Mishnah. Pas comme le Pléoshua qui a cru que pour le Mishnah, le Beth Yosef c'était une redite. Mais non, on ne revient pas sur ce qui a été dit plus haut. Ici, on est en train de dire que quand on écrit, il faut écrire en ktav hachourit. Mais on ne parle que de l'hébreu. Quand on écrive la Shona Kodesh, la Megillah, Vayehi, Bimei Achashverosh, tu ne peux pas te permettre de l'écrire en cursive, ou en ivrite, dans le vieil écriture. Mais par contre, ce que dit le Beth Yosef, quand il dit « Elak Pinklal », quand tu écris en français, tu n'as pas besoin d'écrire en caractère hébreu. Écris-le en français. Et je ne sais pas pourquoi le plein de choses, ça n'est pas venu à l'idée, ça. C'est incroyable. Mais je vais le démontrer que c'est vraiment ça. Ça, je vais le démontrer. Et alors du coup, ça répond, il a besoin de deux psukim, parce qu'on parle du ktav, mais que pour l'hébreu. Voilà. Alors dans le Shulchan Aruch, je vais le démontrer simplement, on va terminer avec ça, dans le Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit dans le Seifret, « Haloez, Sheshama et Amegila, Aktuva Belashon HaKodesh. » Donc si quelqu'un ne parle pas l'hébreu, il comprend une autre langue, le français seulement, mais il a écouté la Megillah au Beth Knesset en hébreu. Il est yotze. La Megillah, Aktuva, Blashon HaKodesh ou Bechtav Kodesh? Alors, il y avait écrit Bekitve Kodesh, le Mishnah dit que c'est une faute, il dit Bechtav Kodesh. Donc là, il y a écrit Mefourash que si quelqu'un, on ne parle même pas de quelqu'un qui est, de quelqu'un qui comprend, même quelqu'un qui ne comprend pas, mais pourquoi là, il soit étiotsé avec sa Megillah écrite en hébreu, il faut non seulement qu'elle soit écrite en hébreu, mais qu'elle soit écrite en caractère sacré. Les caractères sacrés, c'est ce qu'on appelle le Ktav Ashuri. Donc voilà, c'est Mefourash que le Bet Yosef, quand il a dit En l'akpid klal, ça ne va pas sur la Ashuri. Ça s'est démontré. Donc c'est vraiment un pédé sur le Pnei Yoshua qui n'avait pas compris comme ça. Et ensuite, il dit Afalpi sheno yodeh ma'im omrim yatsa yodeh chovato. Donc ça c'est la preuve que dans la Ktav Kodesh, que quand on s'écrit en hébreu, le Mechaber, donc le Bet Yosef c'est la même chose, exige que ce soit écrit en caractère hébreu. Maintenant, dans le Seif Tet, Aïta Ktuva Targum Belashon Acheret, Miloshonot Ha'akum. C'est écrit dans une langue étrangère, araméen ou n'importe quelle autre langue. Lo Yatsa Yudechovato, Bikriata, on n'est pas quitte par la lecture, et la Makiroto Lashon Bilvat, sauf si on connaît la langue. C'est ça la différence entre l'hébreu et les autres langues. L'hébreu, on est yotze, c'est polyvalent. Les autres langues, il faut comprendre la langue pour être yotze. Si j'écoute la lecture en grec et je ne comprends pas le grec, ce n'est pas bon. Ensuite, où est-ce que j'en étais? Voilà. Le Roma rajoute « Aval en la chouche be'eze ktav k'touva bet Yosef ». Donc le bet Yosef, le Roma rajoute au nom du bet Yosef. Et c'est ce Bet Yosef que le Pnei Yoshua avait cité, que ça peut être écrit en n'importe quelle langue, en n'importe quel caractère. À partir du moment où c'est écrit dans une autre langue, ça peut être écrit dans n'importe quel caractère. Et ça peut essayer, voilà. Donc c'est comme on a dit. Et pour terminer, le Mishnah Bora nous rajoute Aval Kama Poskim Cholkim. Il y a un certain nombre de Poskim qui ne sont pas d'accord, ni avec le Shulchan Aruch, ni avec le Roma, et qui pensent que. Quand on est, même quand on écrit en français, ou en anglais, ou en allemand, il faut des Ktav Ashuri. Alors, qui sont ces poskim? Donc, Kama poskim cholkim, ou svir aleu, qui pense de Megillah, b'chol lachon shehu, qu'une Megillah qui est dans n'importe quelle langue, enna kshera likrot ba, afilu beloez, même s'il comprend, enna kshe aktav shela ashurit. Qui sont ces. Dans le kshar atziun, il va les développer. Ari az mouva b'shite giborim, donc le shite giborim, Rabbi Yitzhak Orzaroua, ou alors Rabbi Yeshayahu Acharon d'Itrani, qui dit comme ça, le rashbat, Rabbi Shimon Ben Tzemar Durand, je pense, le Meiri, le Prix Hadash, le Gaon de Vilna, le Pnei Yoshua B'Chidushav, et le Gaon Rabbi Akiver au nom du Chavot Yair. Et dans le Biurach, et il renvoie au Biurach, dans le Biurach, il dit Arbe Rishonim Svira Luka Mechaber. Il amène plein de Rishonim qui pensent comme le Mechaber, ce qui veut dire qu'apparemment, on n'a pas tenu compte de tous ces postimes-là. Enfin, de toute façon, ça, je ne pense même pas si ça existe aujourd'hui, non. Des Megillot dans une autre langue, c'est presque tombé à l'eau. Si quelqu'un voulait s'amuser à faire une Megillah dans une autre langue, et qui n'écrivait pas en caractère hébraïque, d'après le Mechaber, le Roma, et la majorité des Rishonim, eh bien, on...
Le Chatatrax, il est dans un contexte très...
Razak Baro. Le rythme...